car qui promet ceci ou cela. Toutefois, le président Fabo estime que le gouvernement malais mènera une enquête approfondie. Le président a également déclaré que ce problème avait été discuté avec le premier ministre malais, Anwar Ibrahim, lors de sa visite d'État à Kuala Lumpur, Malaisie, lundi dernier, 27 janvier. Concernant le rapatriement des autres citoyens indonésiens concernés, le président a déclaré que le gouvernement s'occuperait de cette question. Le président Prabowo Subianto a reçu le ministre de l'énergie et des infrastructures des Émirats Arabes Unis, EAU, Suhail Muhammad Al-Mazouri, à Jakarta, jeudi 30 janvier. Selon le secrétariat présidentiel, cette réunion constitue une étape stratégique dans le renforcement du partenariat entre l'Indonésie et les Émirats Arabes Unis. Dans sa déclaration après la réunion, le ministre indonésien des Affaires étrangères, Sugiono, a déclaré que la réunion avait pour but de suivre l'accord qui était juridiquement contraignant et de garantir que la mise en œuvre de la coopération se déroule conformément à l'accord.
Siang hari ini tadi Menteri Suhail dari Satuan Emirat Arab.
Cet après-midi, le ministre Suhail des Émirats Arabes Unis a rendu visite au président, car il a un programme à Jakarta pour rencontrer plusieurs ministères et institutions afin de suivre la coopération qui a un parapluie juridique. Il y a un accord. Il est donc venu ici pour assurer le suivi de ces accords et suivre les détails des développements. Selon le ministre des Affaires étrangères, Sugiono, la coopération discutée a couvert un certain nombre de secteurs stratégiques, y compris l'énergie et le logement, ainsi que d'autres secteurs globaux. Il a ajouté que le président Prabowo n'a donné aucune instruction spécifique, mais le ministre a souligné l'importance de mettre en œuvre tous les accords de manière optimale et de rechercher des solutions immédiates s'il y avait des obstacles dans leur mise en œuvre. La vice-ministre de la Protection des travailleurs migrants indonésiens, P2MI, Christina Ariani, a souligné l'importance pour les travailleurs migrants indonésiens, PMI, de se rendre à l'étranger légalement, pour éviter que des événements risqués et indésirables ne se produisent. Elle a déclaré cela en réponse à l'incident de tir de 5 travailleurs migrants indonésiens, PMI, non procédural, par l'Agence malaise de contrôle maritime APMM il y a quelque temps. Comme l'a rapporté Antara, lors de sa rencontre à Jakarta jeudi 30 janvier, Christina a encouragé la synergie des ministères ou institutions concernées et des gouvernements régionaux pour garantir que les PMI qui partent à l'étranger passent par les canaux officiels. Il a admis qu'il attendait une réponse de la Malaisie concernant l'année diplomatique. La fusillade a eu lieu dans les eaux de Cap Roux vendredi 24 janvier. En conséquence, une personne est décédée, une autre est dans un état critique et 3 personnes sont soignées à l'hôpital. L'Indonésie et l'Espagne se sont engagés à organiser une réunion du comité mixte GCM prévue pour juin 2025 et coïncidant avec l'événement Indo-Défense en 2025. C'est la déclaration du ministre de la Défense jeudi 30 janvier. Le GCM est organisé dans le but d'approfondir la collaboration entre l'industrie de la défense, l'éducation militaire et le transfert de technologies. Cet engagement est le résultat d'une réunion entre le ministre de la Défense, Shafri Samsudi, et l'ambassadeur d'Espagne en Indonésie, au Timor-Oriental et à l'ASEAN, Francisco de Assis Aguirre Aranda, au bureau du ministère de la Défense à Jakarta. En outre, l'Indonésie est invitée à participer au FEINDEF 2025 à Madrid, en Espagne, en tant qu'événement de diplomatie, de défense et de proximité d'investissement stratégique. Le ministère de la Défense espère que les deux pays pourront continuer à construire une coopération industrielle de défense plus étroite et plus durable. L'Indonésie et l'Espagne ont établi une base de coopération dans le secteur de la défense depuis la signature d'un accord en 2013, ratifié en 2018. L'attaché à l'éducation et la culture de l'ambassade d'Indonésie au Caire, en Égypte, Abdul Muta Ali, a été élu membre honoraire du Sénat de l'Université Al-Azhar au Caire. Il s'agit du communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie au Caire, cité par Antara. selong lambasat Indonesia okayak Abdul Muta Ali a établi une coopération et une collaboration entre l'Université Al-Azhar et le ministère de l'Éducation primaire et secondaire avec la création d'un programme d'études de langue et de la littérature indonésienne à l'université. Le programme d'études est le premier du genre au Moyen-Orient. Abdul Muta Ali aurait non seulement mené une diplomatie éducative avec les universités islamiques d'État, mais aussi avec d'autres campus publics d'État, comme l'Université d'Indonésie. Il a également communiqué en tâchement avec le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, afin qu'ils ouvrent des écoles établissent des succursales en Indonésie, afin qu'à l'avenir, les étudiants indonésiens n'aient pas besoin d'aller en Égypte pour étudier. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonjour à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission des commentaires d'aujourd'hui intitulée « PME attire l'attention des participants au Forum économique mondial 2025 en Suisse » avec Maudry. Chers auditeurs, le secteur des micro, petites et moyennes entreprises, MPME, est depuis longtemps l'un des principaux piliers de l'économie indonésienne. Sous la direction du président Prabowo Subianto, le gouvernement s'est engagé à faire des PME la force motrice de l'économie. Lors de l'inauguration du cabinet rouge et blanc, le président Prabowo a déclaré qu'il avait une grande vision pour aider les PME à progresser dans la classe, notamment en devenant international. Il existe une entreprise d'PME de Bandung qui a réussi à attirer l'attention du monde entier lors du Forum économique mondial WEF 2025 qui s'est tenu à Davos, en Suisse. Avec ses produits de qualité supérieure, les chips de bœuf rendang et de rendang au bœuf, le UMKM Restumande qui sert de la nourriture au pavillon indonésien, a reçu un accueil chaleureux de la part des visiteurs en raison de son goût délicieux et authentique. Selon Ishda Ramadanti, directrice du développement commercial de Restu Mandé, en plus d'offrir des saveurs authentiques riches en épices, Restu Mandé a un autre avantage, avoir une certification complète de qualité alimentaire. Il a même réussi à répondre aux normes et à la certification de la Food and Drug Administration, FDA, des États-Unis, ce qui est très difficile à obtenir. De plus, cette PME a également obtenu diverses certifications allant de la certification halal par le Conseil indonésien des oulémas, à l'Agence indonésienne de surveillance des aliments et des médicaments, en passant par la déclaration de certification des bonnes pratiques de fabrication et la certification des points critiques d'analyse des risques. Dotée d'une certification complète, cette UMKM basée à Bandung se développe sur le marché international. Actuellement, ces produits sont entrés avec succès sur les marchés de Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Qatar, d'Australie et de Singapour. Un autre point intéressant est que cette PME ne se concentre pas uniquement sur le profit, mais crée également un impact positif sur la communauté locale. Entre autres choses, en ouvrant des opportunités d'emploi aux femmes au foyer avec des horaires de travail flexibles et en travaillant avec les agriculteurs locaux autour de Bandung, Java occidentale, pour garantir qu'ils obtiennent des matières premières de qualité. Cela s'inscrit certainement dans le troisième idéal du programme Astachita du président Prabowo Subianto, c'est-à-dire 8 missions, à savoir accroître les opportunités d'emploi de qualité, encourager l'entrepreneuriat, développer l'industrie créative et poursuivre le développement des infrastructures. À l'avenir, on espère que les micro, petites et moyennes entreprises pourront véritablement jouer un rôle de pilier de l'économie nationale. Bonjour, Chouetard, c'est tout. Le commentaire.
Merci d'écouter la voix de l'énergie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons présenter l'histoire d'aujourd'hui. Je commence avec les événements 31 janvier 1926, la fondation de Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama est une organisation islamique d'Indonésie. Cette organisation est connue pour son caractère islamique traditionnaliste. Nahdlatul Ulama a été fondée à Surabaya, Java Oriental, le 31 janvier 1926, par un certain nombre d'ulema avec Kiai Haji Hashim Ashari comme premier président général. Selon esi.kemdikbud.go.id, avec la création de Nahdlatul Ulama, les traditionnalistes ont leur propre organisation qui est gérée de manière moderne, unissant les ulema de la majeure partie de Java centrale et de Java orientale. En 1930, une succursale de la Nahdlatul Ulama a été ouverte à Kalimantan. Depuis sa fondation, NU ou Nahdlatul Ulama a lancé divers programmes d'activité ciblant divers domaines de la vie, entre autres l'économie, la science sociale, la culture et la nationalité. Jusqu'en 2023, environ 150 millions d'Indonésiens ont déclaré membres de NU, faisant de cette organisation la plus grande organisation islamique d'Indonésie. Le 31 janvier 1966, le lancement du vaisseau spatial Luna 6. Luna 6 était un vaisseau spatial sans pilote construit par l'Union soviétique dans le cadre de sa mission spatiale. Conçu par le bureau de design dirigé par Sergei Korolev, le vaisseau spatial a été lancé le 31 janvier 1966 à Cosmodrome de Baïkonour, aujourd'hui au Kazakhstan, Lunasys a été le premier vaisseau spatial capable d'attirer sur la Lune et de prendre des images sur la surface lunaire. Le 31 janvier 2020, la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne. Le Royaume-Uni est membre de l'Union européenne depuis 1973, lorsqu'elle s'appelait la Communauté européenne, et son adhésion a été confirmée par référendum en 1975. En 2016, le référendum a montré qu'une majorité de Britanniques souhaitait quitter l'Union européenne. Le processus de négociation est en cours entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Après 37 ans d'adhésion, le Royaume-Uni a finalement officiellement quitté l'Union européenne le 31 janvier 2020. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Je départ, c'est la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie.
Ces héritages pour la République suivante, voici donc mon Indonésie. Donc le titre est « Le ministère de l'énergie et des ressources minérales estime que l'Indonésie est capable de passer aux énergies renouvelables ». En effet, le ministère de l'énergie et des ressources minérales et SDM, Satya Hangayuda, a déclaré que l'Indonésie est capable de passer des combustibles fossiles aux énergies nouvelles et renouvelables, EBT, garantissant l'existence d'objectifs d'émissions fixes de carbone. Selon Satya, le processus de transition s'effectue en fonction des limites de capacité nationale et se réfère aux normes appliquées par les pays développés. Dans sa déclaration à Jakarta, mercredi, Satya a expliqué que la transition énergétique doit être progressive. L'Indonésie se tourne vers les énergies renouvelables, mais le charbon reste une source d'énergie compétitive et bon marché. Par conséquent, pour que l'Indonésie soit cohérente avec la réduction des émissions de carbone des centrales électriques au charbon, il est nécessaire de procéder à une co-combustion avec de la biomasse et à l'avenir avec une technologie de stockage de carbone. En outre, selon Satya, ses fonctions d'expert auprès du ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales pour la commercialisation et le transport du pétrole et du gaz constituent un mandat en sa qualité d'assister le ministre et le vice-ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales dans l'exercice de leurs fonctions qui sont conformes à la vision et à la mission du président et du vice-président de la République d'Indonésie, à savoir les points 2 et 5 d'Astacita sur l'autosuffisance énergétique et l'avale. Il a déclaré que sous la direction du président Prabowo, l'Indonésie développera de nouvelles énergies renouvelables et réduira sa dépendance aux combustibles fossiles. Il a déclaré qu'à l'an 2040, plus de 100 gigawatts de capacité énergétique sont construits, dont 75% proviendront des énergies renouvelables, 5 gigawatts du nucléaire et 20 gigawatts du gaz. L'ancien analyste de la commercialisation du pétrole et du gaz pour le groupe de travail spécial SKK du pétrole et du gaz, MIGAS, espère qu'avec le décret présidentiel du groupe de travail national sur l'aval et la résilience énergétique dirigé par le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, il pourra augmenter les investissements, l'aval et devenir un déclencheur de croissance économique, de création d'emplois et d'augmentation de la valeur ajoutée des produits de base indonésiens. Satya a expliqué que l'Indonésie doit être capable de passer des combustibles fossiles aux énergies renouvelables pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris en 2030 et également celui de zéro émission nette, NZE, en 2060. La réduction progressive du charbon est importante, mais il doit y avoir une solution. C'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la service locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine culturel intitulé Cuisine des Babat Gonso ou Trip de Gonso avec moi, Audrey. Sujetard, lors de votre voyage à Semarang, Java Central, n'oubliez pas de goûter aux différentes spécialités culinaires. Il y a des lumpias qui sont très populaires. Il y a aussi le babat gonso, un plat culinaire en goût unique, en tantan. Vous pourrez déguster ces délices culinaires le matin, l'après-midi ou le soir. Si vous visitez Semarang, vous pouvez vous arrêter dans plusieurs restaurants pour déguster ce plat de trip gonso. Le babat gonso ou trip gonso est généralement vendu par les vendeurs de riz frit babat. Les vendeurs de riz frit se promènent depuis le matin et se frayent un chemin. Certains traînent devant les ruelles ou dans les kiosques. Chers amis, le babat gonso est fabriqué à partir de tripes de bœuf bouillies jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Les tripes sont la muqueuse comestible de l'estomac du bétail. Une fois tendres, les tripes sont sautées ou rôties avec diverses épices. Les épices utilisées comprennent des échalotes, de l'ail, des piments et de la sauce soja sucrée. Une fois dégusté, ce plat est un vrai délice. La texture des tripes est douce avec un assaisonnement équilibré entre le piquant du piment et la douceur de la sauce soja sucrée. Le babat gonso sera encore plus délicieux s'il est mangé avec une assiette de riz chaud. En plus d'être délicieux, le babat gonso est également connu comme un aliment riche en nutriments, notamment en protéines provenant des tripes de bœuf. Déguster du babat gonso à Semarang sera une expérience culinaire à ne pas manquer. Essayez cette authentique spécialité culinaire de Semarang. Le prix est d'environ 20 000 et 30 000 de roupies par portion avec du riz blanc. Bon chargé d'art, c'est tout, le magazine culturel.
yang menjadi murun. Bukan aku ingin memanjakanmu, bukan aku ingin bahagiakanmu, tetapi ku harus jujur padamu. Ikan kau tinggal seribu, sungguh aku ingin kecewa.
C'est la Samsung Pop indonésienne. Vous êtes avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Chers amis, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée « Étudiants de l'Université Gadjah Mada remporte le concours ». De développeurs Huawei RZ Pacific avec moi Audrey. Chargé tard, l'équipe d'étudiants du département de génie électrique et des technologies de l'information DTETI, faculté d'ingénierie, université Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta, a participé au concours des développeurs Huawei 2024 Asie Pacifique à l'université Chula Longkorn à Bangkok en Thaïlande du 20 au 21 janvier. Lors de la compétition, les étudiants du DTETI ont rejoint les étudiants du département de génie mécanique et industriel DTMI au sein de l'équipe HyFlex. Lors de la finale, l'équipe HyFlex a remporté la première place du concours des développeurs Huawei 2024 Asie-Pacifique pour son innovation. Après avoir concouru avec 662 220 équipes pour un prix total de $34,000 américains. Au fond, l'un des membres de l'équipe a déclaré que l'équipe HyFlex a conçu des innovations basées sur des idées qu'ils ont eux-mêmes imaginées et étudiées. Ce jeu tard, dans cette compétition, chaque équipe développe des technologies de l'information et de la communication TIC pour trouver des solutions à des problèmes réels en utilisant la technologie cloud de Huawei. Toutes les équipes participantes sont divisées en catégories Enterprise Track et Student Track. Six lauréats ont été récompensés dans chacune des deux catégories après être passés par plusieurs étapes de sélection. Depuis la soumission des propositions, la présentation des démonstrations de solutions jusqu'à la compétition lors de la phase finale. Chers amis, lors du concours Huawei Developer Competition Asia Pacific de cette année, des six équipes de la catégorie Student Track sont des contingents de l'UGM. Outre HyFlex, une autre équipe est l'équipe Claudia qui se compose d'étudiants du département d'informatique et d'électronique FMIPA, Université Gadjah Mada, UGM. Cette équipe a réussi à remporter la deuxième place. Bonjour Yada, c'est tout, l'Indonésie en couleur.
tentang dirimu. Mengharap kau kembali ke dalam pelukan. Hanya sisakan perih luka yang semakin dalam. Sampai kapan ku harus mengisi rindu yang tak terbalas. Masih ada kecintaan.
La diffusion étrangère de Radio République Indonésie présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous représentons divers programmes, Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme tronchon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
dekat dengannya di depan mataku. Aku terbakar hati saat melihatmu mesra-mesra dengannya di depan mataku.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Chers amis, maintenant c'est le temps pour l'émission de magazine musical avec Maudry. Et cette fois, comme chaque vendredi, je vais vous présenter une chanson pop régionale du centre de Sulawesi, intitulée Sampesuvuroa. Chers amis, Sampesuvuroa signifie en langue Kaili, cousin et ami. Cette chanson est très populaire parmi le peuple Kaili qui habite dans la majeure partie de la province centrale de Sulawesi. Sampisuvuroa raconte l'histoire d'un jeune homme qui voyage pendant 20 ans à la recherche d'une vie meilleure. Après un long moment, il rentra chez lui avec un cœur plein de nostalgie, espérant retrouver ses cousins et amis décédés. Pour chercher tard, voici la chanson intitulée « Sampisuvuroa » chantée par Ungu. Bonne écoute.
Chers auditeurs, c'est l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Jakarta, Indonesia. Here is Voice of Indonesia with English program. Presenting news, information, and entertainment from Indonesia. You can listen to our program through shortwave 3325 kHz and 4755 kHz. Online streaming, voanews.id, and RRI Digital Mobile Application. Voice of Indonesia, from Indonesia to the world. From
Indonesia to the world. Hello, VOI listener. How are you today? I hope all of you are doing great. I'm Rahma. I will accompany you in the 60 minutes ahead with various interesting English programs from Voice of Indonesia. First, we present you the news, followed by commentary, various information, as well as entertainment. Now let's begin with the news, so stay with us, Voice of Indonesia, from Indonesia to the world, only on voinews.id or shortwave frequency 3325 and 4755 kHz and RRI Digital Mobile App. You are still listening?
Here's the news read by Ray. First, the headline. President Prabowo trusts Malaysia's probe into migrant worker shooting. Minister Sugiono highlights commitment to strengthen Indonesia-United Arab Emirates ties. And now the news in detail. The first news. Indonesian President Prabowo Subianto said on Thursday where he believes that Malaysia will conduct a proper investigation into the shooting of five Indonesian migrant workers by Malaysian Maritime Enforcement Agency officers in Selangor last week. He feared that the issue was discussed during his recent meeting with Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim in Kuala Lumpur. A group of Indonesian migrants was shot at by APMM officers while reportedly attempting to leave Malaysia illegally through the waters of Tanjung Ru, Selangor on January 24, 2025. One worker was killed and four others were injured in the accident. The Malaysian authorities claim the shooting happened when the five Indonesian migrant workers tried to resist arrest. However, the Indonesian Ministry of Foreign Affairs denied this version of events. The Ministry's Director of Protection of Indonesian Citizens, Judah Nugraha, emphasized that there was no resistance from the migrants. Based on the testimonies of the four survivors, who are currently being treated at Klang Hospital in Malaysia, two of the four injured Indonesians were in stable conditions when they provided a chronology of the shooting to representatives of the Indonesian embassy in Kuala Lumpur. Hence, Nugraha said, Indonesia has demanded a thorough investigation into the shooting, including the possibility of excessive use of force by the Malaysian authorities. Moving on to the second news. Indonesia Minister of Foreign Affairs Sugiono reiterated Indonesia's commitment to enhancing cooperation with the United Arab Emirates by addressing and eliminating obstacles and barriers in their partnership. There are several obstacles and barriers in the partnership, especially in the commercial